journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
À la une ce matin, le retour de la quarantaine pour les voyageurs qui veulent se rendre au Royaume-Uni, décision prise par Londres dans la nuit. Les autres titres, Laurence.
Les excuses du ministre de l'Intérieur biélorusse envers les manifestants, des centaines d'entre eux ont été libérés de prison. Au Liban, après l'explosion, le début des auditions des hommes politiques. Cruauté et barbarie envers des chevaux retrouvés morts avec l'oreille coupée. Et puis le football, Leipzig sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.
Les invités de la matinale, un amoureux de Brahms de 23 ans seulement, le virtuose pianiste Alexandre Kantorov. Et puis le grand entretien avec Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. On parlera bien sûr de la crise du coronavirus qui sévit actuellement en France et ailleurs.
France Inter.
La France redevient un pays à risque, au moins aux yeux des Britanniques. Même motif, même punition, comme il l'a fait avec l'Espagne fin juillet. Le Royaume-Uni a décidé en quelques heures la nuit dernière d'imposer dès demain samedi une quarantaine aux voyageurs arrivant de France. Cette mesure va prendre de court aussi bien les expatriés français que les nombreux Britanniques actuellement en vacances dans notre pays. Maxence Peignet.
La lune de miel estivale n'aura pas duré longtemps. Après l'Espagne le 25 juillet, c'est au tour de la France d'être retirée de la liste des pays dispensés de quatorzaine pour entrer au Royaume-Uni. À compter de samedi, tout voyageur arrivant sur le territoire britannique depuis l'Hexagone devra s'isoler pendant 2 semaines. Le ministre des Transports, Grant Shapps, a annoncé ces nouvelles restrictions dans la nuit de jeudi, prenant de court des milliers de voyageurs. Selon les médias nationaux, près de 400 000 touristes seraient concernés. Mais Londres ne considère plus la France comme un pays sûr, prétextant une hausse de 66% des cas de Covid-19 sur le territoire depuis vendredi dernier. Les Pays-Bas et Malte font également partie des destinations visées par ces quatorzaines. Toute infraction sera passible de 1 100 € d'amende. Clément Beaune, le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes, dit regretter une décision qui entraînera une mesure de réciprocité. Londres, Maxence Peignet, France Inter.
La France va engager une mesure de réciprocité à l'égard de la Grande-Bretagne, c'est ce qu'indique le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune. Le casse-tête des frontières, le cauchemar des déplacements internationaux se décline aussi avec le Canada. C'est la 6e plus grande communauté de Français dans le monde. Plus de 100 000 y sont installés. Depuis le 18 mars, les étrangers ne sont plus admis au Canada et pour des centaines de Français qui attendaient la validation d'un visa pour partir, eh bien l'attente commence à être très longue. Benjamin Recouvreur.
Le départ pour Montréal était prévu en juillet pour Nathalie et sa famille installée en Guyane depuis 5 ans. Restait simplement la validation d'un permis d'études pour elle et sa fille de 17 ans. Mais la crise sanitaire a tout bloqué. Leur maison vendue, ils vivent depuis chez des amis.
Là, ça va faire 3 mois qu'on est chez eux et on n'a pas de visibilité pour l'avenir. On ne sait pas du tout ce que l'on va faire. Et en plus, l'immigration, ils nous laissent espérer. Au lieu de nous dire, bon maintenant, on ne veut pas d'étudiants avant janvier, au moins on serait fixé et on passerait à autre chose. Ce n'est pas une situation très confortable.
Florent, lui avait validé son visa avant le confinement. Rentré en France pour plusieurs semaines un peu avant Noël, il s'est retrouvé bloqué chez ses parents pendant plusieurs mois. Il espère pouvoir repartir dans quelques jours.
La majorité des dispositions sont prises pour que je puisse prétendre à décoller, en espérant que ça fonctionne. Il n'y a qu'une fois à l'aéroport de Montréal où je vais passer à l'immigration que je vais avoir la certitude de pouvoir passer.
Pour les Français déjà installés, la situation est aussi compliquée. Romain était guide de chiens de traîneau au nord du Québec. En manque de touristes, son entreprise a fermé.
Mon permis de travail temporaire de 2 ans, il s'est terminé, ben, pile à ce moment-là. J'étais un peu dans l'impasse en quelque sorte. Il était impossible de communiquer avec Immigration Canada, il l'est toujours d'ailleurs. Je compte pas du tout rentrer en France juste à cause d'un problème de visa et à cause du Covid.
Les frontières du Canada resteront fermées au moins jusqu'au 31 août.
Alors rappelons que les indicateurs de suivi de l'épidémie en France continuent de se dégrader pour un nombre de dépistages quasi identique sur les 2 dernières semaines. Les cas positifs sont en augmentation chez les jeunes en particulier et Santé publique France relève une légère augmentation des entrées en réanimation. On en reparle tout à l'heure à 8h20 avec l'invité du grand entretien Jérôme Salomon. Le directeur général de la Santé.
Une situation plutôt inédite en Biélorussie. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses excuses aux manifestants.
Pour, je cite, les blessures infligées à des personnes prises au hasard dans la rue. La rue qui proteste depuis dimanche dernier contre la réélection du président Loukachenko. La violente répression policière a fait 2 morts et des centaines d'arrestations. Mais en plus de ce mea culpa, un autre signe qui semble traduire la vulnérabilité du pouvoir face aux manifestations. Plus de 1000 personnes ont été libérées et la présence policière se fait plus discrète. Léo Vidal-Giraud.
Les klaxons des voitures, les chants et les cris de joie ont remplacé, dans les centaines de vidéos que diffusent les manifestants biélorusses sur Internet, les explosions des grenades assourdissantes et les sirènes de police. Après 4 nuits d'affrontements très violents qui ont fait au moins 2 morts, il semblerait que les autorités biélorusses aient décidé de baisser les armes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les manifestations se sont déroulées sans heurts, dans une ambiance de fête, presque de victoire. Apparemment, la décision de jouer l'apaisement vient du sommet de l'État. Alexandre Loukachenko ne s'est toujours pas exprimé, mais la présidente du Sénat biélorusse, Natalia Kochanova, l'a fait en son nom.
Aucun d'entre nous ne veut d'une guerre. Le président a entendu l'appel des travailleurs et a ordonné d'enquêter sur toutes les arrestations. Cessons de nous autodétruire. J'invite tout le monde à s'arrêter. Soyons raisonnables.
Pourquoi ce revirement soudain ? S'agit-il d'une reculade devant des débuts de mutinerie dans la police et l'armée, devant les appels de plus en plus suivis à la grève générale, ou d'une simple tentative de gagner du temps en pariant sur un épuisement futur du mouvement? En tout cas, ce recul n'a fait qu'enhardir les manifestants, plus nombreux que jamais dans les rues. Les témoignages des personnes arrêtées en début de semaine, qui commencent à être relâchées et dénoncent des conditions de détention absolument inhumaines, ne sont pas de nature à apaiser les esprits. Il paraît maintenant peu probable que les Biélorusses accepteront d'être raisonnables et de simplement rentrer chez eux. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
Au Liban, 10 jours après l'explosion qui a fait plus de 171 morts et 6500 blessés, la ministre des Armées Florence Parly est sur place. Elle accueillera en fin de matinée un bâtiment de la marine française qui achemine des hommes et de l'aide alimentaire, médicale et des matériaux pour la reconstruction. Et pendant ce temps, eh bien, l'enquête avance. Aurélien Colli, c'est le début aujourd'hui des auditions de ministres et d'anciens ministres.
C'est un ancien ministre des Transports et des Travaux Publics qui sera le premier à être auditionné par le parquet de Beyrouth, celui qui était en poste en 2013 lorsque la cargaison de nitrate d'ammonium a été débarquée dans le port de la capitale libanaise dans des conditions qui restent encore floues. D'autres ministres doivent suivre la semaine prochaine pour tenter d'expliquer comment un tel stock a ensuite été délaissé pendant 6 ans, qui savait depuis quand et pourquoi rien n'a été fait, alors que plusieurs services de sécurité ont tiré la sonnette d'alarme. Depuis l'explosion, hommes politiques, autorités judiciaires et appareils sécuritaires se rejettent la responsabilité, alors que la vingtaine de personnes arrêtées au lendemain de la catastrophe, notamment les responsables du port et des douanes, restent derrière les barreaux. L'enquête technique, elle, avance loin de la presse, avec des experts internationaux. Des policiers français sont déjà sur le terrain. Et bientôt aussi le FBI, annonce faite hier soir par le numéro 3 de la diplomatie américaine, qui était à Beyrouth, dans les quartiers soufflés par l'explosion. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Les corps des 6 humanitaires français assassinés au Niger dimanche dernier, rapatriés ce matin à Paris avec une cérémonie d'hommage cet après-midi à Orly en présence du Premier ministre.
Vers la fin d'un interminable feuilleton industriel.
La scierie d'Ascoval dans le Nord semble enfin sortie de la crise. Bercy a validé hier soir sa reprise par le britannique Liberty Steel en commun accord avec l'usine de rail d'Ayange, en Moselle. Refroidi par les promesses non tenues d'Altifort, candidat à la reprise d'Ascoval, c'était au début de 2019, le ministère d'économie voulait s'assurer de la réalité de l'investissement promis par le groupe sidérurgique anglais, soit 65 millions d'euros pour les deux entités. Les deux adolescents de 16 ans soupçonnés d'avoir frappé une infirmière qui leur avait demandé de mettre un masque dans un bus en Seine-Saint-Denis ont été placés sous contrôle judiciaire, mis en examen pour violence aggravée. C'est un mystère qui dure maintenant depuis 6 mois. Et les cas se multiplient en France, plutôt dans le nord-ouest du pays. Depuis le mois de février, 10 chevaux ou poneys ont été atrocement mutilés et tués. Le mode opératoire présente plusieurs similitudes troublantes. Une oreille tranchée, emportée comme un trophée, des chevaux parfois éventrés ou égorgés. Rituels, défis lancés sur les réseaux sociaux, acte d'un déséquilibré. Des enquêtes sont en cours pour savoir ce qui se cache derrière ces actes de barbarie. Mais en attendant, chez les éleveurs, un parfum de psychose commence à régner. Frédéric Lavoine, propriétaire du haras des Flags à Guéron, en Normandie, a fait la douloureuse expérience de cet acte de barbarie. Il avait confié sa pouliche d'à peine 2 ans à un centre d'entraînement dans l'Aisne. Et un matin d'avril, cette pouliche a été retrouvée égorgée, l'oreille coupée.
Ça nous inquiète, oui, parce que déjà, il y a eu celle-là, puis on n'est pas à la merci demain d'en retrouver d'autres, hein, parce que ça a l'air de se multiplier, ce phénomène-là. Depuis là, il y en a toutes les semaines ou tous les mois. C'est énorme, le nombre qu'il y a. Enfin, alors... Je sais pas ce que c'est comme un trophée, comme un rituel, je crois. Enfin, c'est un peu ce qui se dit aujourd'hui. C'est des gens qui font ça, mais on n'imagine pas que ça puisse arriver. Parce qu'un cheval qui meurt d'une maladie, d'un truc, voilà, à un moment donné, il n'y a plus de solution. Là, tuer un animal pour tuer un animal, ça fait bizarre. C'est assez sordide, hein. Il le saigne, il coupe l'oreille, enfin.
Du coup, est-ce qu'en ce moment, vous faites très attention?
Bah, attention, qu'est-ce que vous voulez faire? Le plus gentil cheval, vous pouvez l'attraper jour et nuit, quoi. On peut pas mettre une alarme sur chaque cheval, il faut tomber sur les gars au bon moment, mais vous avez pas trop envie de tomber dessus non plus, quoi. On sait pas ce que ça peut être ces gens-là, enfin voilà.
Frédéric Lavoine avec Adjira Mohamed. La sécheresse met en danger les poissons de rivière. Les niveaux des cours d'eau sont très bas et cela dans de nombreux départements de France. 77 sont d'ailleurs concernés par des mesures de restriction d'eau et les poissons se retrouvent parfois pris au piège dans des poches d'eau. Ils n'arrivent pas à rejoindre le lit faute d'un niveau d'eau suffisant. Les fédérations de pêcheurs multiplient donc les opérations de sauvetage, Bénédicte Robin.
Depuis le pont de pierre qui enjambe le petit Morin, rien de plus simple que de descendre au bord de la rivière sur la berge. Sauf que la berge n'en est pas une.
Non, c'est pas une berge. Normalement, ici, il y a de l'eau.
Didier Saint-Hilaire, le président de l'Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée du Petit Morin, s'en désole.
Depuis 40 ans que je suis sur le secteur, ça doit être la deuxième fois que je vois la rivière si basse. C'est assez critique et ce qui nous inquiète, c'est de voir la rivière toujours baisser d'heure en heure. On peut dire d'heure en heure, hein, pas de jour en jour.
Surtout que cela a créé comme une poche d'eau indépendante de la rivière.
Donc les poissons en restent prisonniers.
Aristide Flon est agent de développement à la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Si le niveau ne remonte pas, on a un réchauffement de cette température, un abaissement du niveau de l'oxygène et il y a un risque de mortalité piscicole.
Une trentaine de chevennes, une dizaine de gardons, une centaine de petits alevins se sont retrouvés ainsi piégés. Ils ont pu aller les sauver en sortant les outils.
C'est un système de pêche électrique portatif avec un voltage de 230 à peu près. On les fait rentrer dans le champ magnétique qui est diffusé grâce à l'anode. On met des petites impulsions comme ça, on y va petit à petit et on balaye. Donc derrière, on les récupère, on les met dans le seau et ils repartent sains et saufs quelques instants plus tard.
Des opérations de sauvetage comme celle-là, il en a réalisé presque une tous les deux jours en une semaine.
C'est pas mal.
Sur le département de la Seine-et-Marne.
Bénédicte Robin, le PSG affrontera Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions mardi prochain à Lisbonne. Les Allemands ont sorti l'Atlético Madrid hier soir en quart de finale de 2-1. Des quarts de finale qui continuent ce soir entre Barcelone et le Bayern Munich avec sur le terrain Corentin Tolisso, la belle histoire de cette Ligue des Champions. Le joueur français a célébré un but le 8 août dernier lors du match retour des huitièmes de finale en tenant une promesse faite à un petit garçon porteur de trisomie 21. Le récit d'Hugo de Gouzel.
C'est un pari qui a commencé comme ça.
Tu vas décider, Paul, quand je vais marquer mon prochain but, la célébration que je vais faire.
Deux points fermés qui se croisent, puis un index pointé vers l'avant. Dans un appel en visio, Paul explique à Corentin Tolisso comment dire « gagner pour toi » en macaton, une langue des signes simplifiée apprise par le petit garçon. Un geste reproduit samedi dernier par le champion du monde après son but face à Chelsea, Benoît Laporte, le papa de Paul.
Il a eu cette idée-là de dédicacer son prochain but à Paul. Et Paul qui suit la Ligue des Champions, il était comme un petit fou.
C'est le joueur lui-même qui avait sollicité l'association Grandir Ensemble via le programme Positive Football. Le handicap a un sujet qui touche particulièrement Corentin Tolisso. Jérôme Dumois, cofondateur et porte-parole de Positive Football.
Sa maman a travaillé dans ce milieu-là depuis longtemps. Il a côtoyé les personnes en situation de handicap depuis son plus jeune âge. Il y a eu des choses qui l'ont marqué.
Paul retrouvera le Munichois lors d'un nouvel appel prévu la semaine prochaine. Benoît, le papa.
C'est pas des promesses en l'air. Je pense qu'effectivement ça va perdurer. Voilà, Munich, dès qu'on peut aller dans les stades, on voit qu'il a fait ça sans contrepartie.
En attendant de retrouver Corentin Tolisso, Paul, pourtant supporter du PSG, suivra les matchs du Bayern depuis chez lui à l'affût d'un nouveau signe du français.
Hugo de Gouzel.
Merci Laurence Thomas.